Vous êtes sur RTL.
En Beaune, qui est notre invité en direct. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chargé depuis 6 mois des affaires européennes au sein du gouvernement. Soulagé, j'imagine, ce soir par tout ce qui a été acté par la grande famille européenne. On va en parler en détail dans un instant. Je voudrais d'ailleurs prendre les choses à l'envers et parler du futur très proche. Est-ce qu'on va tout droit vers un échec entre Londres et l'Europe concernant la future relation commerciale entre les deux camps? Ces négociations au post-Brexit qui coincent depuis des jours, des semaines, des mois. La deadline, c'est dimanche soir. Honnêtement, on va vers un no deal, selon vous?
Écoutez, honnêtement, on se donne encore une chance d'avoir un accord, mais c'est très difficile. Je veux dire deux choses. D'abord, on n'acceptera pas, nous l'avons dit, redit, un accord de mauvaises conditions pour la pêche ou les pêcheurs, pour les entreprises européennes et françaises, pour pas qu'il y ait de conditions de concurrence qui ne soient pas équitables entre le Royaume-Uni et l'Europe. Ça, on n'acceptera pas.
Ça veut dire que ce soir, ça négocie encore ?
Ça négocie encore, ça négociera encore sans doute ce week-end, et donc on se donne encore une chance, parce que c'est mieux d'avoir un bon accord.
La présidente de la Commission européenne a parlé ce midi d'un faible espoir d'accord. Idem pour Boris Johnson. En mots diplomatiques, ça veut dire 95% que ça capote, non ?
Non, je ne veux pas donner de pourcentage, parce que tant qu'il y a un espoir, on continue depuis des années, parce que c'est notre intérêt collectif d'avoir un bon accord. Mais encore une fois, nos intérêts, nos priorités sont clairs et nous ne les sacrifierons pas, ni la pêche, ni des conditions de concurrence justes entre le Royaume-Uni et nous.
Si c'était un échec, Clément Beaune, le grand perdant, ce serait quoi ? L'Europe ou l'Outre-Manche ?
D'abord, ça serait le Royaume-Uni beaucoup plus que nous. Mmh. Je veux dire, pour donner un ordre de grandeur, le marché britannique, c'est 8 fois moins que le marché européen. Donc nous sommes forts. Maintenant, s'il n'y a pas d'accord, c'est difficile. Et donc, nous nous préparons à tous les scénarios. Nous avons des préparatifs pour des contrôles douaniers, pour aider des secteurs qui seraient en difficulté à cause du Brexit. Et je veux dire aussi que, quoi qu'il arrive, accord ou pas accord, il y a des changements qui se passent au 1er janvier, notamment un certain nombre de contrôles de marchandises. Donc, pour les entreprises, par exemple, il faut se préparer, dans tous les cas.
Affaire à suivre. Donc, le concret, c'est d'abord le plan de relance économique. Ça s'est passé hier, jeudi. Plan de relance sauvé, malgré les réticences, notamment de la Hongrie et de la Pologne. 750 milliards d'euros. L'unité de l'Union est sauvée, là ?
Oui, je crois que c'était un bon exemple de fermeté et d'ambition européenne. Ce plan de relance, en deux mots, on l'a construit en 6 mois. C'est un plan de relance inédit, 750 milliards d'euros. 400 milliards d'euros de subventions directes, dont un peu plus de 10%, 45 milliards d'euros, iront à la France, troisième bénéficiaire de ce plan de relance. Donc c'est majeur. On l'avait acté cet été, il y a eu des négociations ensuite avec le Parlement européen, c'est la vie démocratique. Et puis là, il y a eu un blocage. Et on a été très clair. On a dit, ce blocage ne doit pas empêcher l'Europe d'avancer. On ne sacrifie pas la relance, mais on ne sacrifie pas non plus la raison pour laquelle la Pologne et la Hongrie avaient bloqué, c'est-à-dire l'état de droit, le respect de nos règles politiques fondamentales, par exemple l'indépendance de la justice. Ça, on ne peut pas sacrifier.
L'Union européenne n'a pas cédé sur le dossier des droits de l'homme face à la Hongrie et la Pologne.
Je veux dire très clairement, non. C'était une ambition française, un engagement français très clair. Nous avons tenu bon là-dessus. Il y a un texte législatif qui garantit le respect de l'état de droit. Et si vous ne le respectez pas, vous pouvez avoir des sanctions financières. Ça, c'est préservé. Nous avons simplement fait une déclaration politique qui rassure la Pologne et la Hongrie et leur donne en quelque sorte une chance, si elles étaient mises en cause, de se défendre.
Ça, c'est acté, c'est clair. Ces milliards, les premiers versements de ce plan de relance sont fixés à quelle échéance ?
Écoutez, au printemps. C'est ça l'objectif. Maintenant, il y a une toute dernière étape qui est un vote, parce que c'est normal aussi, au Parlement français. Comme dans tous les États membres, on va essayer de faire ça vite, sans doute en tout début d'année en France. Et puis ensuite, un décaissement des fonds qui arrivent, sonnant et trébuchant, dans les territoires en France, au printemps, à partir du printemps.
Et en France, ça pourrait financer quoi ?
Ça va financer notre plan de relance de 100 milliards d'euros. 40% va être financé par l'Europe. Ça veut dire que si vous avez une rénovation thermique chez vous, si vous avez le plan vélo, des infrastructures vertes, le plan d'aide aux jeunes, tout ça va être cofinancé, financé en partie importante, par l'Europe. Donc tout notre effort de relance est aidé par l'Union européenne.
Les 27 qui, au passage, ont planché toute la nuit dernière, d'ailleurs, pour relever leurs ambitions climatiques. C'est un message fort à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris. L'objectif, c'est la neutralité carbone en 2050, une réduction de gaz à effet de serre dans les 10 ans. C'est jouable, ça, dans les 10 ans ?
Oui, exactement. On a pris cet engagement commun, tous ensemble, cette nuit. Je crois que c'était très important à la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris pour augmenter notre cible de baisse des émissions en 2030, moins 55% pour être précis. Et l'objectif ultime, c'est d'être neutre en carbone, c'est-à-dire pas d'émissions nettes en 2050. Et c'est un objectif que tout le monde a agréé, tout le monde est d'accord. Et maintenant, on va se donner les moyens financiers, c'est le plan de relance notamment, presque 40% seront consacrés à l'écologie. Et puis, c'est des règles qu'on met dans les différents secteurs, les émissions des voitures, etc., etc., qui va continuer dans les mois qui viennent.
Vous nous dites que tout le monde est d'accord, même la Pologne, là encore, la Pologne, parce qu'elle est très dépendante du charbon.
Absolument, il faut reconnaître, c'est plus dur pour la Pologne de faire cette transition vers l'énergie propre. Et donc, on l'aide avec des soutiens financiers, dans le budget européen qu'on a débloqué d'ailleurs, mais elle a pris l'engagement, comme les autres, qu'on participe tous à l'effort pour 2030 et pour 2050.
L'Europe est plus ambitieuse sur le plan climatique, on l'entend avec cet accord-là, mais l'Europe, ça n'est pas le monde. Il va falloir incorporer tout le monde et convaincre tout le monde, les États-Unis, la Chine.
Oui,
ça, c'est...
Non, on avance, parce que je crois que l'Europe a justement été forte et exemplaire. La Chine a annoncé neutralité carbone pour 2060, donc c'est assez proche de nous. Les États-Unis vont revenir dans l'accord de Paris, et j'espère qu'ils vont se donner des ambitions climatiques très importantes. Et puis, je veux dire aussi, on ne fait pas l'effort de manière naïve. Et donc, il y a quelque chose qu'on a acté hier qui est très important, c'est d'avoir une forme de protection du prix du carbone à nos frontières. Quand vous avez un exportateur américain ou chinois qui veut vendre en Europe, il devra respecter les mêmes exigences climatiques. Sinon, c'est injuste. Et en plus, on fait des efforts qui sont annulés par les autres. Donc, on ne peut pas imposer ça à nos entreprises ou à nos consommateurs. Et donc, on va aussi travailler sur cette espèce de taxe à nos frontières pour créer de l'égalité, de l'équité entre les producteurs européens et les autres.
Il y a un autre sujet qui a bien animé justement ce Conseil européen. C'est la Turquie. L'Europe a été très ferme face à la Turquie. Les 27 ont adopté des sanctions pour les activités d'Ankara en Méditerranée orientale. Emmanuel Macron voulait une unité. Il l'a eu. D'ailleurs, il est très content, j'imagine.
Écoutez, on est content parce que je pense trois sujets, c'est des avancées énormes pour l'Europe qui étaient attendues, nécessaires dans la crise qu'on connaît. Sur la Turquie, nous avons mené ce combat européen pour la fermeté. C'est pas fini, mais on a eu des sanctions à l'unanimité. Je crois que c'est une étape nécessaire pour que l'Union européenne se montre ferme et crédible. Et on a dit aussi que, quelque sorte, le ministre des Affaires étrangères européennes, qui s'appelle M. Borrell, va faire un rapport dans les prochaines semaines pour éventuellement élargir ces sanctions s'il continuait à y avoir des difficultés.
La France se sent moins seule dans ce dossier-là, dans ce combat en tout cas.
Oui, c'est un combat qu'on a mené un peu seul au début, il y a quelques mois. On nous disait la France est isolée, et puis on a rallié un consensus européen pour tenir bon. Parce que si l'Union européenne est ferme, souveraine, il faut que ça veuille dire quelque chose. Et que quand il y a des provocations, on réagisse. C'est ce qu'on fait.
Ça ressemble à une petite victoire personnelle d'Emmanuel Macron, quand même, parce qu'il n'est pas très copain-copain avec Erdogan, le leader turc.
Non, c'est pas le sujet de M. Erdogan. Avant même qu'il y ait des insultes, c'est peut-être ça auquel vous faites référence, encore hier, il y avait des provocations en Méditerranée contre la Grèce, contre Chypre. Donc c'est un vrai test pour l'Europe. Et ce qu'a porté le président de la République, c'est une fermeté, une unité européenne dans cette réponse. Je crois qu'on le devait, sinon l'Europe n'a pas de sens, et on l'a fait.
Merci d'avoir répondu à toutes nos questions en direct ce soir. Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes en direct dans RTL Soir à 18h26. Vous restez bien là s'il vous plaît. Dans un instant, on fait un point complet sur l'actualité. Surtout, on se penche sur la carte météo de votre week-end. A tout de suite.
RTL Soir.